Lundi 8 avril, bon courage pour le travail, il est 8h. Le journal Adrien Bossard. Après 2 mois et demi de grands débats, maintenant on fait quoi ?
Le gouvernement présente sa synthèse aujourd'hui, 1500 pages censées déboucher sur des mesures. Y aura-t-il dans l'eau quelques-unes des revendications des Gilets jaunes ? Eux n'y croient pas, vous l'entendrez. Qui dit vrai ? Entre la hiérarchie et les agents, la mairie de Sarcelles dans le Val d'Oise est confrontée à de grosses tensions en interne, tensions sur fond de discrimination et de racisme au travail, disent les salariés. Le maire n'est pas d'accord. Il y en a partout, le long des routes, des tonnes de déchets jetés par les automobilistes. Opération nettoyage hier sur la Nationale 6. Et puis on va prendre quelques coup, en fin de journal, on s'essaye au MMA. Ce sport de combat jugé ultra-violent pourrait bien être légalisé en France. La grisaille au programme, Romain.
Oui, effectivement, alternance entre nuages et éclaircies. On va le temps de mettre les gants de boxe pour se protéger. Et puis on fera un détour aussi par la route parce que là, c'est la foire d'Empoigne. Ce matin, il y a beaucoup de ralentissements et notamment aussi sur la route qui est commune aux trois autoroutes, l'A1, l'A3 et la Francilienne. On est là juste en dessous de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle avec un accident qui vient de se produire. Point complet sur vos conditions de circulation. Toutes les 10 minutes sur France Bleu Paris.
France Bleu Paris matin.
Mais d'abord, alors ça a servi à quoi ce grand débat ?
L'heure est à la synthèse pour le gouvernement. Il présente aujourd'hui le bilan de son grand débat national, 2 mois et demi de réunions et de consultations censées répondre à la crise des gilets jaunes, pouvoir d'achat, logement, écologie, référendum d'initiative citoyenne. Pour une majorité de gilets jaunes parisiens, Rémi Brancato, il s'agit surtout d'une opération diversion.
Ce n'est pas parce qu'il se conclut que le grand débat trouve grâce aux yeux des gilets jaunes.
Je ne sais pas de quoi vous parlez, du grand blabla vous voulez dire ?
Le grand débat national.
Ah c'est ça, le grand blabla national.
C'est pas un grand débat, c'est une grande blague.
Comme lors de son lancement, beaucoup dénoncent une opération de simple communication.
Moi je suis allée au aucun grand débat, jamais.
Florence, venue des Yvelines à Paris manifester ce week-end, ne lui confère aucune légitimité.
C'est de la rigolade, c'est de la poudre aux yeux, de la poudre de perlimpinpin. Ils gagnent du temps, ils veulent nous fatiguer mais... on n'est pas fatigué.
Quelles que soient les conclusions tirées par le gouvernement et les éventuelles annonces, Bernard continuera les manifestations.
Il n'a pas de réponse à nous donner, de toute façon, il faut qu'il parte.
Position partagée par Éric Drouet, l'une des figures du mouvement.
Un grand débat où les questions sont choisies, enfin imposées, il n'y a rien à en tirer.
Alors qui parmi les gilets jaunes pour ne serait-ce qu'écouter ce que dira le Premier ministre ? Priscilla Ludowski, elle aussi à l'origine du mouvement, accepte de tendre l'oreille.
Moi j'attends qu'ils prononcent des mesures fortes en matière de fiscalité, qu'ils prennent aussi leurs responsabilités en matière d'enjeux climatiques. Tous les sujets brûlants sont connus du gouvernement, donc des mesures devraient être prononcées, j'espère, rapidement. Ils nous ont pas mal vanté le grand débat, donc maintenant il va falloir en sortir quelque chose. Il y a une très grande campagne de communication, maintenant il faut assumer.
Et de conclure, sourire aux lèvres, la balle est dans leur camp.
La présentation de cette synthèse est aujourd'hui au Grand Palais. Et vous, que retenez-vous de ce grand débat national ? Faites-vous confiance au gouvernement pour restituer la parole des Français et surtout pour prendre les bonnes décisions. Dites-le nous ce matin.
Oui, vous appelez dès maintenant. Vous décrochez votre téléphone 01 42 30 10 10.
Et on en parle aussi à 8h20 avec l'invité de France Bleu Paris, le maire Les Républicains de Poissy, Carl Olive. C'est le 25e suicide de policier depuis le début de l'année en France. Une policière de Conflans-Sainte-Honorine s'est donné la mort ce week-end. Âgée de 37 ans, elle se serait suicidée avec son arme de service dans sa voiture stationnée en pleine campagne.
Dans l'actualité également, cette enquête interne lancée à la mairie de Sarcelles dans le Val d'Oise.
Pour savoir si, oui ou non, des agents de la propreté sont victimes de racisme et de discrimination au travail. Ils alertent depuis plusieurs semaines sur leur mal-être. Des insultes couplées, disent-ils, à l'absence de reconnaissance et de promotion. Ils mettent en cause en particulier 2 responsables du service cadre de vie. Patrick Haddad, maire de Sarcelles depuis décembre, s'en étonne.
Moi, j'ai rien constaté de cet ordre-là. C'est-à-dire que j'ai pas vu quelqu'un devant moi traiter quelqu'un d'autre comme un esclave. Et évidemment, en tout cas pour ceux qui sont pas mis en cause, je sais qu'au niveau de la direction des services, ils ont aussi le droit à de la considération. En plus, voilà, on n'est pas un esclave au sens où ils sont évidemment rémunérés. Il y a une stabilité de l'emploi pour la plupart d'entre eux parce que ce sont des fonctionnaires. Voilà, il faut replacer les choses dans leur contexte. Maintenant, il faut prendre les accusations qu'ils profèrent tout à fait au sérieux et pouvoir enquêter jusqu'au bout.
Des propos que ne supporte pas d'entendre Pierre Baudin, le délégué au syndicat UNSA territoriaux à Sarcelles.
Dans ce qui est dit, nous, on est choqués. On est choqués parce que cela ne correspond pas à la réalité de ce qui se passe. Ces gens-là me donnent l'impression qu'ils survolent le sujet. On a l'impression qu'ils ne vivent pas les mêmes, je dirais, événements. Ils sont dans un commentaire théorique. Ils ne sont pas dans la partie pratique des événements. Donc il y a une distorsion entre le commentaire qui est dit et la réalité qui est vécue par les agents.
Les conclusions de l'enquête interne devraient arriver d'ici un ou deux mois, selon la mairie, alors que les salariés, eux, viennent de prendre contact avec un avocat, c'est à lire sur francebleuparis.fr.
8h05 sur France Bleu Paris.
Ça nous agace tous de voir le long des routes des cigarettes, des cartons ou des bouteilles d'eau, des déchets jetés par des automobilistes que l'État n'a plus les moyens de ramasser. À la place, des citoyens se mobilisent, exemple hier le long de la Nationale 6 dans le secteur de la forêt de Sénart. Opération nettoyage d'environ 600 bénévoles et parmi eux, beaucoup d'enfants, Maureen Suignard.
Derrière les glissières de sécurité, de nombreuses petites silhouettes s'activent.
Il y a des personnes qui jettent des déchets dans la forêt. Alors, y a plein de monde qui se réunit pour les ramasser.
Pour cela, il faut bien s'équiper.
J'ai mis mes bottes un peu que je mets dans le jardin pour pas vraiment salir mes nouvelles chaussures. Des gants.
Et dans ton autre main, qu'est-ce que tu as ?
Un autre gant et un sac.
Et il suffit de quelques minutes de recherche pour trouver de nombreux détritus. Émile, en classe de 5e, n'en revient pas.
On a trouvé plein de trucs bizarres, une tirelire, des enjoliveurs, des bouts de voiture et des bouteilles. Enfin, c'est pas des trucs qu'on jette par une voiture.
Pourtant, le sac de Louisa se remplit aussi très rapidement.
Des cigarettes, il y en a partout et beaucoup de plastique. Il y a des câbles, il y a des sacs plastiques, du polystyrène.
À 7 ans, elle sait très bien pourquoi elle est là aujourd'hui.
Pour déjà sauver les animaux, parce que j'ai vu un panneau où il y a des gazelles dans la forêt. Et surtout, ne pas faire de pollution.
Une vraie conscience écologique chez ses enfants, de quoi rendre Cameron très fier.
Ça nous montre qu'on est actif dans la vie citoyenne, que les jeunes y participent, comme ça, c'est bien.
Chaque année, plusieurs tonnes de déchets sont ramassés lors de cette opération.
Et de nettoyages de ce type sont organisés chaque année le long de la Nationale 6.
Et puis on pensait, mais non, on ne connaît pas encore ce matin le champion de France de Ligue 1.
Non, pas encore. Le PSG aurait pu faire la fête hier soir, mais le nul concédé face à Strasbourg de partout retarde l'échéance un peu seulement d'un huitième sacre en championnat. Le débrief, c'est ce soir à 17h30.
Oui, tribune PG sur francebleuparis.fr avec Bruno Salomon et toute son équipe, notamment Stéphane Bitton, tonton Steph, qui sera avec nous dans moins de 3 minutes.
Un clinch, un middle kick, un low single,
une technique
de combat en anglais qui pourrait bientôt être traduite en français. Le MMA, le Mixed Martial Arts, est sur la voie de la légalisation dans l'Hexagone. La France est aujourd'hui l'un des derniers récalcitrants à ce mélange de lutte, de judo et de boxe dans une cage où tous les coups ou presque sont permis. La ministre des Sports pose une seule condition, qu'il soit encadré par une fédération. Une annonce accueillie avec joie à la salle parisienne MMA Factory, Julie Pietri.
Certains frappent torse nu, d'autres en combinaison moulante noire. Une vingtaine d'hommes qui combattent deux par deux et aussi une femme.
J'aime beaucoup la bagarre en fait, hein. C'est surtout ça. Hein.
Marie-Laure, 25 ans, en fac de médecine.
Moi j'aime me battre, mais après pas au point de... Est-ce que ça se met à saigner partout? Est-ce qu'on se casse des choses? Ouais, non, c'est pas le but.
En MMA, les coups de pied, poings, genoux, coudes sont permis. Les coups à terre aussi. Johan Segas, 25 ans, tout en muscle et professionnel de la discipline.
Nous, on pratique dans un espace qui s'appelle l'octogone, plus communément la cage, qui est un petit peu une vision, comme ils disent, les jeux du cirque. Mais c'est avant tout sécuritaire pour la pratique des combattants. Le MMA est né à la base sur un ring. Beaucoup d'athlètes tombés en fait.
T'attends quoi ? Donne-moi la guerre ! T'attends quoi ?
Fernand Lopez, entraîneur de MMA, a reçu la ministre des Sports ici dans la salle en février. Il attend la légalisation de la discipline.
Je pense que la plupart des athlètes souhaiteraient combattre sur leur territoire, c'est-à-dire faire leur sport auprès de leur famille. Quand ils vont à l'étranger, ils sont diffusés en direct sur des millions de foyers à travers le monde. Dans leur propre pays, ils sont mal aimés, c'est un peu embêtant pour eux.
La légalisation permettrait aussi d'encadrer ce sport, de forcer les coachs improvisés à passer un diplôme. Aujourd'hui, il serait entre 30 et 50 000 adeptes en France.
Julie Pietri pour France Bleu Paris.